d'être venu pour cette conférence qui s'inscrit tout à fait dans la thématique des réseaux, puisqu'on va parler du corps et on va surtout s'intéresser sur qu'est-ce qu'il va rester du corps, que restera-t-il du corps, notamment avec la multiplication des avatars. Ça nous renvoie à quelque chose de profond en fait. Quelle est la place du corps dans la définition d'une personnalité? Et ce sont des questions que l'on va aborder avec trois personnes. Je suis très content d'avoir ici sur le plateau. Tout d'abord, à ma gauche, et donc à votre droite, monsieur Alastair Reynolds. On va parler notamment de l'espace de la révélation. Vous avez déjà pu sans doute le croiser depuis hier lors de différentes conférences. Juste à côté, vous avez Sylvie Denis. Alors, je vais vous donner rapidement les derniers titres. Le tout dernier, c'est la saison des singes, qui est paru aux éditions Atalante. Mais on parlera notamment de son recueil qui s'appelle Le Jardin virtuel. Et puis, juste à côté de moi, nous avons Joël Vintrobert. Joël, qui faut citer. Le tout dernier en date, c'est La Chambre de Sable, qu'on vous recommande et qui est aux éditions Cliff, si je ne dis pas de bêtises. Mais on vous recommandera également chaudement Pollen ou bien encore les Olympiades Truquet. Voilà. Rapidement, je sais que parfois il y a des questions, alors on fera peut-être une petite pause au milieu de la conférence, savoir si vous avez des questions pour pouvoir aborder des questions sur les dialogues, parce que c'est vrai que c'est une conférence qui amène beaucoup de questions. Le corps, les réseaux, mais finalement peut-être les cyborgs et finalement dans tout ça l'humain. Je voulais simplement parler et commencer avec la définition en fait de l'être humain et qu'est-ce que le corps apporte dans cette définition. Par exemple, on a Alastair Reynolds et il a des personnages qui sont entièrement numérisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de corps, qui vivent dans des ordinateurs. Qu'est-ce que ça change dans la description de vos personnages quand vous les inventez? Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on entend Alastair Reynolds? Non, pas du tout. Je vais vous donner mon micro.
Right. Yes, it's certainly the case that in Revelation Space and a number of my other novels, I've played around with various types of character. Some of the characters are fully human, exactly like we are. And at the other extreme, there are individuals, entities, if you like, who may or may not be human, who are essentially just patterns of data stored in computer systems. I came to this with no fixed preconceptions about whether I personally think that that would be a working definition of still being human. But for the purposes of fiction, it was actually very interesting to have that ambiguity, so that in Revelation Space, with the digitized characters, some of the other characters think that these people are fully human and some of them don't think they're anything other than software. So you get all sorts of interesting tensions between the different characters as to whether they think these entities should be taken seriously or not. And then the entities themselves have their own opinions as to whether they're human or not. One of the characters has been uploaded into computer space, but he personally was a skeptic about, you know, the potential of retaining humanity if you're scanned into a computer. So he retains that skepticism. So these are certainly ideas that I found very fruitful to play with through not just Revelation Space, but the other books.
Est-ce qu'ils ont des comportements fondamentalement différents, ces personnages qui sont peut-être numérisés par rapport à d'autres personnages plus normaux,
That's an issue that I sort of started getting into a little bit later in the sequence of books, where I started thinking, to begin with, when I wrote Revelation Space, which was a long time ago, I think I was quite naive, if you like, in that I thought, well, if you take, to give an example, if you put a human being into some sort of scanning device, and you scan their brain, and you map all the neurons and the interconnections between the neurons, and if you somehow replicate that structure in a computer, then what you will have is indistinguishable from human consciousness as we know it, and that person will continue to feel themselves human. I don't really believe that anymore, and I think that things are a lot more complicated and biological. And if you can't really separate the brain from the rest of the body and still retain something that's truly human. That's something I went into a little bit more depth in some of the other books. I think chemistry and other factors are far, you know, just as important as the simple pattern of the brain cells.
Oui, ça correspond exactement à ce que je pense, à ce que j'ai toujours pensé, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait une photographie de par exemple du verre d'eau ou du lait dans la tasse de café qu'on a le mouvement du lait dans la tasse de café. Je pense que c'est pareil pour le cerveau, c'est parce qu'on photographie les neurones qu'on va avoir le mouvement chimique et électrique qui fait que moi on pense en faisant des photos. Ce que je trouve intéressant dans certaines des personnages et des processus qui sont décrits dans les livres d'Alastair Reynolds, c'est qu'il y a différents niveaux d'enregistrement. Il y a des copies qui ne sont pas vraiment des copies conscientes. Il y a des copies qui ne sont pas vraiment des copies. C'est ce que je trouve qu'il y a. Et qui en plus ne marche pas bien. Donc, ça, c'est un processus intéressant.
The details of the invented future that I wanted to put into Revelation Space was the notion that you have different levels of copies. And I had this scheme in the book where you have the alphas and the betas and the gammas, etc. And the basic concept was that an alpha level simulation is, as I was saying, in someone whose brain has been put into a computer system cell by cell. They've been scanned and uploaded into computer space. And they continue thinking and they don't really feel any different than if they were still in the body. On a lower level than that, I had the concept of the beta level simulation. And the beta level simulation is something that we don't must approach today, and it's the idea that you would go through your whole life, or at least a good portion of your life, being monitored by computer systems. And those computer systems would gradually build up a predictive model of your behavior so that in any given social situation, the computer system would have a good guess as to how you would respond. Like if the system has been monitoring me for years and years, it would have a good idea about what the kind of things I was likely to say on this kind of panel. And the idea was that that would keep going on throughout your whole life, and the system would be steadily improved and become more and more refined until the point where you decide, well, that's an entity that is to all intents and purposes indistinguishable for me. But nonetheless, it's not actually modeling the internal processes of the brain. It's basically just an algorithm, if you like, a gigantic set of instructions that says, under conditions X, Y, Z, he would be likely to respond in this fashion. But it's not claiming to emulate consciousness. And that's the beta level simulation. And again, in the book, some characters think beta level simulations deserve to be treated with the same respect as alpha level simulations, and some characters don't. And then I went down the level, and I had gamma level simulations, which would be effectively the artificial intelligence in an elevator that, to all intents and purposes, talks to you as if it's a real human being, but you know it's just circuitry behind the wall.
Alors justement, je voulais revenir avec Sylvie, et notamment sur deux nouvelles qui se trouvent dans Jardin virtuel. On n'en est pas encore au corps qui est complètement dématérialisé, mais on a deux personnages qui vivent complètement branchés en permanence sur le réseau. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que ça modifie les choses et leur comportement?
Oui, parce que le personnage de... Tu as parlé de Dendor Le personnage de Dendor, qui a été écrit assez longtemps après Elizabeth Forever, c'est une situation un peu similaire. Il occupe une place dans un système qui gère, en gros, la circulation, les entrées et sorties, la surveillance d'un complexe. Et il est là parce qu'il fait un programme de prison, en fait. C'est-à-dire que les prisonniers n'ont pas leur construire des machins, donc on est obligé d'y servir quelque chose, donc on les colle dans un truc, ils sont là. Donc pour moi, c'est plutôt une image d'aliénation qu'une image de libération. Parce que le corps est prisonnier, mais l'esprit aussi, il n'est pas libre. Et c'est la même. Alors que le personnage d'Elizabeth Forever, elle se débrouille pour faire fonctionner à l'hôpital, mais elle arrive à en faire ce qu'elle veut. Est-ce que ça conditionne totalement effectivement leur façon de penser, parce que toute l'action de la nouvelle tourne autour de cette fameuse bonne partie de l'action de la nouvelle tourne autour de ce qu'ils peuvent faire à partir de cette situation-là.
Pas forcément à cause de l'absence du corps, c'est juste de nouvelles perspectives.
C'est plutôt la situation d'être piégé et prisonnier. Mais la seule solution que le personnage de Dedans-Dehors a pour vivre, pour communiquer, c'est de contourner le système et de passer outre, de se débrouiller, de faire quelque chose que normalement il ne devrait pas faire.
Alors dans la préparation, juste avant, on a discuté un petit peu avec Joël Robert, donc, et on parlait de deux nouvelles qu'elle a écrites, et c'est assez intéressant. Alors du coup, on n'est plus tout à fait dans les réseaux, mais ça nous montre bien comment l'idée et le concept du corps est véritablement important. Il y a notamment la nouvelle qui s'appelle Avatar, où on peut louer, si on est très très riche, l'enveloppe charnelle de quelqu'un d'autre. Imaginons que Brad Pitt soit très pauvre et que je sois très riche, je pourrais, par exemple, en 24 heures, louer le corps Brad Pitt. C'est à peu près ça l'idée.
Oui, c'est d'ailleurs une nouvelle qui a été publiée à Sylvie dans son anthologie. Pascal Demina, voilà, c'est ça, qui est paru aux éditions Fleuve Noire. Et donc, pour moi, l'avatar, c'est quand même au sens fort, puisque c'était quand même c'est le thème du débat, mais c'est pas seulement la dématérialisation du corps, c'est l'avatar, c'est l'incarnation du Dieu. Et c'est l'incarnation, ou la désincarnation, justement, donc de l'enveloppe physique. Et c'est également aussi la possibilité de changer de corps, de s'incarner dans d'autres choses. Donc, bon, évidemment, quand on pense. On se trouve tout de suite au corps virtuel, parce que ça existe déjà. On a Second Life, tout le monde pense à Second Life, quoi. Et donc qui permet déjà à tout un chacun, pour certains d'entre nous, on les a dû faire l'expérience, je suppose, de se créer cet avatar dans un monde virtuel. Et donc d'expérimenter une projection dans un monde virtuel. Et alors je m'écarte un petit peu de ce dont on avait discuté tout à l'heure, mais c'est parce que en ce moment là, il y a à Paris, je lisais Libération ce matin, ça me paraissait très intéressant. Il y a un festival qui s'appelle Reality Festival. Et donc qui s'appelle Territoire d'Avatar, donc autour des mondes virtuels. Et l'article pointe très précisément ce que sont, à mon avis, les défauts de Second Life. Hein. Le fait que la mimésie c'est parfait, c'est-à-dire que au lieu d'explorer cet univers en le dépassant, c'est-à-dire en utilisant toutes les possibilités virtuelles de la création de l'avatar, c'est-à-dire justement l'ubiquité, la pesanteur, tout ce qu'on peut imaginer, la téléportation, l'immatérialité, ils ont reconduit un peu finalement, ils ont reconduit le monde tel qu'on le connaît. Donc il y a très très peu d'imagination, d'imaginaire qui a été créé dans ce monde-là, d'ailleurs qui est en train, je crois, d'être plus ou moins abandonné. Je crois qu'il y avait, il me semble qu'il y a à peu près 500 000 utilisateurs, ce qui est assez peu par rapport à ce qu'on pouvait imaginer au départ, parce que oui, ben, j'ai vraiment les préparations beaucoup plus importantes. Et moi, je pense que là, il parle dans cet article, donc ça m'intéresse pour ceux qui n'auraient pas lu cet article des Libérations d'en faire par ici, de gens qui seraient prêts à proposer des expériences impossibles à réaliser dans la vraie vie, justement, architecture réactive, drogue programmable qui modifie la perception de l'espace, performance de réalité mixte se déroulant à la fois en ligne et dans le monde réel. Donc ça, effectivement, là, on a quelque chose qui dépasse complètement ce que la vie réelle nous permet. Et là, le virtuel devient vraiment intéressant. Alors je reviens à ce que j'avais écrit à l'époque. Donc moi, ce qui m'intéressait, effectivement, c'est comment, quand on n'est pas tout à fait satisfait de son enveloppe corporelle, et qu'on a cette possibilité, parce qu'on est très riche, de s'incarner dans quelque chose, ou éventuellement, si on est quelqu'un d'assez salaud, voire même sadique, hein, puisqu'en l'occurrence, on met en scène un sadique dans cette nouvelle, on va utiliser le corps de quelqu'un d'autre pour libérer ses instincts. Voilà. Et donc, cette nouvelle met en scène exactement cette possibilité, avec un héros qui se fait complètement balader, à la fois par les gens qui vendent la possibilité de s'incarner dans quelqu'un d'autre, et donc qui promettent à la personne qui va vendre son enveloppe charnelle pour une journée, simplement, en se disant « ça va me permettre, parce que dans ce monde, il faut promettre qu'on a les moyens, pour justifier qu'on a les moyens de d'élever un enfant pour pouvoir avoir un enfant. » Donc ça va nous permettre d'offrir à la femme de ma vie la naissance de cet enfant. Et en fait, ce qui se fait, il se fait complètement rouler dans la taille, donc ça s'arrive, ça travaille pour lui. Et toujours, on va voir peut-être après, parce que c'est une autre dimension, avec l'esprit, une autre dimension de la désincarnation et de la réincarnation.
Donc ça veut quand même dire que, finalement, avec un avatar qu'on pourrait croire parfait, une dématérialisation de son corps, l'oubli de son physique, on n'est pas forcément loin, au final.
Non, bien sûr que non. Non. On peut imaginer un avatar qui serait absolument le corps de rêve. Alors ça, c'est l'idée du clone. Hein. Ou c'est la fameuse idée de mortalité, où effectivement, on se survit à soi-même avec une transplantation de mémoire. Donc c'est la transmise. D'ailleurs, on peut se survivre à soi-même en transplantant sa mémoire dans un corps tout à fait différent de soi. Il y a une très très belle nouvelle, novella d'ailleurs, de Jana Debat, qui s'appelle La vieille anglaise et le continent, donc qui est sortie récemment, qui fait d'ailleurs partie des finalistes du Grand Prix de l'imaginaire, qui sera décerné ce soir. Et cette nouvelle met en scène une très vieille dame condamnée, qui va utiliser les derniers moments de sa vie. En s'incarnant justement grâce à cette transmise, donc cette possibilité de transférer son esprit, sa mémoire, ce transfert mémoriel dans l'esprit d'un cachalot, enfin pas dans l'esprit puisque le cachalot est mort, donc enfin de faire une empreinte mémorielle dans un cachalot, dans le corps d'un cachalot, parce que toute sa vie elle a lutté pour la préservation de cette espèce, etc. Voilà. Et donc, c'est une nouvelle absolument magnifique, je vous conseille de la lire, mais on a effectivement quelque chose de tout à fait extraordinaire dans l'avatar, là, puisque son avatar, ce qui va lui permettre de bien utiliser la transmise dans cette histoire n'étant pas tout à fait au point, elle sait qu'elle ne va pas pouvoir survivre longtemps, c'est juste quelques mois, mais ces derniers mois de vie, elle les utilise absolument à fond, et elle devient, on l'a dans l'histoire, qu'elle devient de plus en plus cachalot, et de moins en moins humain. Donc c'est tout à fait passionnant.
Alastair Reynolds, vos personnages qui sont complètement numérisés, est-ce qu'ils sont plus heureux? Est-ce qu'ils sont immortels? Ou est-ce qu'ils gardent les défauts des êtres humains?
Well, they were never, in any sense, the characters that I chose to focus on. They were not the characters that I chose to focus on as the writer, because I always, my personal feeling is that I have no great emotional investment in digitized characters. They were essentially secondary characters to the storyline. And the more I got into the writing of it, the less convinced I became, if you like, that you could ever have any kind of existence as a disembodied character. So they tended to be sort of peripheral to the main story. Because they had the misfortune to exist in my miserable universe, in which everything goes wrong, everything went wrong for them. So you have this situation which is referred to in several of the novels, where a few hundred years in the future, a scientist conceives this scheme to upload an experimental group of people into computer space. So he takes 80 subjects, one of which is himself, and he develops this technology where they can be scanned. Unfortunately, the technology is such that the physical body is actually destroyed in the scanning process. So it's a one-way trip. You're going to go into this computer space, but your actual body will be destroyed in the process. And he finds these willing volunteers who are prepared to take this risk because potentially it gives them the hope of true immortality. So he conducts this experiment and it goes wrong because initially everything seems okay, but within a few years the disembodied intellects of these people start breaking down, the software starts malfunctioning in ways that no one can understand, and their brain patterns sort of freeze in computer space, or they get locked into sort of endless loops where they're just going through the same thoughts over and over again and they can't be locked out of them. And the whole thing becomes this enormous tragedy, and everyone, basically the whole concept of uploading brains into computers is abandoned for a few hundred years because of this shocking episode in the history of the planet. And it's only later that they go back and try and resurrect the technology, and the second time it works a little bit better. But all along, the process never becomes routine, it's always very dangerous. And the people who survive uploading are, one, they're looked on with a great deal of suspicion by the other characters, because who knows, are they still human? How do they become disembodied patterns in computer space? Maybe they have different agendas, maybe they want to take over the universe, maybe they don't like organic human beings anymore. This is a theme that crops up in the other books, that once you've seen someone you know and you love uploaded into computer space, can you still feel any emotional attachment to them? Do you know what's really going on in their minds? Have they become more sympathetic to machines than to human beings? And that's a theme that I return to time and again. But again, even though these people have been put into computer space, they're not truly immortal, because they're still dependent on the architecture to keep them running. And the computer systems themselves are still vulnerable to attack. And this is they never escape that cycle. No matter how many steps they take, there's always going to be the possibility that they can be destroyed in the future. So it never becomes a completely utopian existence.
Parmi des relations entre les gens enregistrés et non enregistrés, si je me souviens bien, il y a un personnage qui a une relation assez étrange avec son père, qui est enregistré, qui est un des premiers, j'ai oublié son nom. Sylvester. His father is...
Go on, sorry.
I don't remember. I remember he has this kind of looming presence over him. I would like you to...
Yes, there's one of the main characters in Revelation Space is a... It's all a bit complicated, and there are some spoilers that I won't give away, but one of the main characters is the son of the man who did these experiments, which went wrong with the 80 subjects. He was called Calvin Torres, and he was one of the 80 himself. He died and was resurrected in computer space. His son continues the family business, if you like. He's one of the main characters in Revelation Space. But he has this very uneasy relationship with a beta-level copy of his father. The reason it's a beta-level copy is that it's the type that's been assembled by just observing his father over many years rather than scanning him. The original scan, the alpha-level copy, has disappeared under mysterious circumstances. And that's part of the story, if you like, is what really happened to the alpha-level copy. And Dan Silvestre has a very ambiguous relationship with the beta level simulation. He needs it for advice, because there are times where he desperately needs the wisdom and advice of his father, but at the same time he doesn't really trust it, and he doesn't really think there's a true intellect living in that beta level copy. He thinks it's just a clever piece of software, a gimmick, that can replicate the behavior of his father under certain circumstances. But some other characters place a lot more value in it. So it's kind of a MacGuffin in the story, if you like, the beta level simulation.
Simplement, il y a beaucoup de questions. Est-ce que vous avez déjà des questions, ou est-ce qu'on continue le débat? Est-ce que quelqu'un veut parler? Non. D'accord. C'est bon. Simplement sur ces notions d'avatar, vous qui êtes écrivain, est-ce que ça vous titille? Comment vous pourriez voir? Qu'est-ce qui serait intéressant d'écrire sur un avatar? Sylvie ou Joël.
Alors un peu de mal à répondre parce que j'ai à peine testé Second Life par exemple. Donc ça m'amuserait effectivement beaucoup, mais le problème c'est qu'il faut déjà être équipé d'ordinateurs qui sont suffisamment puissants de choses, sinon on marche un rame monstrueusement, mais c'est un peu gênant parce que on a l'impression quand même d'être toujours en train de courir après la mémoire du truc. C'est la même chose, j'aimerais bien tester les jeux et les choses comme ça, mais une question de temps qui fait qu'on ne peut pas tout essayer. Ce que j'ai fait récemment, c'est des gamins sur la Lune c'est une uchronie, donc ils sont de chaque côté d'une Lune qui a été partagée entre plus ou moins l'Union soviétique et les États-Unis, et en fait les gamins communiquent à travers des univers, des trucs virtuels, etc., se rencontrent de cette façon, et se rencontrent, ils ont plus de points communs que leurs parents qui sont fichés dans leurs idées des deux blocs, tout ça. C'est plutôt positif pour moi, ma vision des mondes virtuels, des projections et des avatars. De toute façon, on a toujours eu plus ou moins des avatars, parce qu'on ne se montre pas de la même façon à tout le monde. C'est jamais, à mon avis, une continuation de ça. Je trouve ça plutôt amusant. Mais il faudrait poser la question à des gens qui pratiquent, pas qui fantasment.
Joël,
mais ta question c'était sur est-ce que ça nous intéresse en tant qu'écrivain de science-fiction et projection qu'on pourrait en faire, ou est-ce qu'on en tant qu'utilisateur, parce que là Sylvie a répondu plutôt en utilisatrice, et effectivement moi, en tant qu'utilisatrice, j'ai les mêmes limitations que Sylvie, avec un problème de connexion malheureusement pas génial, puisque je suis un petit peu en bout de ligne sur Montpellier, avec un mal Omega, c'est pas génial pour aller vite, donc j'ai un petit peu. Mais autrement, ça m'aurait amusé de tester vraiment la création d'un avatar dans un monde virtuel, parce que je pense que ça doit être très amusant. Je pense que déjà, on s'en rend compte rien qu'avec les échanges qu'on peut avoir sur Internet, la façon dont on peut s'amuser. Moi, je suis en train d'écrire un livre qui est un thriller contemporain sur la relation dangereuse qu'on nous par Internet. Et donc, je me suis assez amusée à regarder ce qui se passe au niveau des clubs de rencontres et tout ça. Et on se rend compte déjà, rien qu'avec les échanges complètement virtuels, c'est tout ce qu'on peut arriver à faire, naître comme fantasme, chose extraordinaire de l'ordre relationnel, simplement avec des échanges qui sont complètement dématérialisés. Voilà. Maintenant, à la fois l'avatar, ça m'intéresse, c'est-à-dire l'avatar virtuel, ça m'intéresse en tant qu'écrivain, et puis moi ce que j'ai quand même mis en scène dans une nouvelle qui est déjà ancienne, qui s'appelle Pure Esprit, qui devrait apparaître dans une anthologie au Bélial l'année prochaine, l'angoisse totale que peut éprouver effectivement un esprit qu'on aurait réussi à sauvegarder sur support électronique, enfin, sur support justement informatique, et qui se retrouverait en dehors de tout cadre, de tout, voilà, on est dans le néant, voilà. Et il faut, pour sortir des liens, se réincarner justement dans l'avatar. L'avatar, en l'occurrence, c'est le clone. Donc, c'est une idée de la science-fiction. Et ce que j'avais inscrit dans cette nouvelle, c'était effectivement, c'était assez sadique de ma part, c'était le fait que le personnage qui a la capacité de finalement, de remettre ensemble un corps et cet esprit, finalement, le fait avec une version plus jeune de l'esprit est encore amoureux de lui. Voilà. Donc c'est absolument insupportable. Parce qu'on peut, comme ça, imaginer que tous les trafics sont possibles. C'est-à-dire qu'on peut faire des enregistrements de l'esprit à plusieurs moments de l'existence d'une personne, et puis choisir de le réincarner hein, dans l'idéal et dans un futur lointain, à avoir un clown à un moment où cet esprit vous convenait bien. Donc, c'est effectivement une idée de science-fiction qui est assez intéressante et assez abominable. Voilà.
Donc vous pourrez le lire l'année prochaine au Bélial. Est-ce que vous qui êtes écrivain, vous pourriez écrire avec que des personnages complètement virtuels, que des avatars, ou est-ce qu'il faut à un moment une interaction avec des vrais gens, des véritables humains et corps, M. Reynolds?
I did find the whole concept of disembodied intelligences and post-human existence quite interesting for a while, but I must admit, lately, I've been moving away from that, and in my early books, virtually every other character was some sort of cyborg or genetically engineered superhuman or someone living in computer space or something. But I've burned out on that, I think, and more and more with the recent books, I've been just moving away from that, and my characters have been becoming more and more orthodox, flesh and blood people. Even with House of Suns, which is the most recent book that I finished, although it's set 6 million years in the future, the two main characters are in fact by far the most human people that I ever wrote about. I mean, they are essentially flesh and blood people with normal human lifespans. If they fall downstairs, they break bones. And in fact, there's one scene where a character is murdered by being chucked off a balcony of a building. And she drops, she dies, and there's nothing they can do about it. Even though 6 million years in the future, they do not have the technology to recover their brain patterns. It simply doesn't exist. And that's a sort of a trend in my writing, that I've been moving more and more away from the kind of sterile abstraction of computer space and more towards real people. I mean, I personally have got no interest whatsoever in things like Second Life. I mean, you're on this planet for 70, 80 years if you're lucky. I don't want to go to my deathbed having spent 20 years of my life playing around with computers and being in some, you know, internet chat room or something like that. You know, maybe in 100 years' time, if the technology was sort of fantastically brilliant and seamless, then there might be something to it. But I've got no interest in that. I quite like living in reality. So to me, I'm always behind the curve of everything, even though I'm a science fiction writer. I've always got old computers. I was writing on a typewriter until relatively recently, and I'm just not interested in that kind of thing, except as a kind of, from a science fiction writer's viewpoint, I'm interested in it. But as a person, I'm not. You know, I probably will never ever do Second Life or create an avatar of myself or anything like that. Even blogging, I'm, you know, deeply suspicious about it.
Et alors vous dites que vous écrivez de moins en moins avec des personnages comme ça, mais pour quelle raison? Parce que il n'y a pas de conséquences au
bout. Yes, that's certainly it's very easy to write. There was a wave in science fiction in the 90s and into the 2000s where there was a great deal of interest in uploaded minds and computer space. It kind of came to its extreme with, for instance, the works of Greg Egan, his novels such as Diaspora, where it's a fantastic book, incidentally, but every character in that book is essentially just some software living in machine space in the year 3000. And I loved it, but I don't want to write about that kind of thing. Even if that's where we're headed, it's not a feature I'm interested in writing about. The worst that could happen to these characters is that they die and they have to be resurrected from a slightly imperfect backup copy. And it's fiction without consequences on that level. I'd rather write about people who have something to lose, if you like. That's just where I am at the moment, anyway.
Personnellement, ce que je constate, c'est que je n'ai pas du tout la même relation avec certains, entre guillemets, clichés ou idées de SF que je pouvais avoir il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a 29 ou 25 ans, je pouvais sauter sur un lit d'unité relativement connu, enfin déjà traité, et pas poser la question de est-ce que c'est vraisemblable, est-ce qu'on va le faire, est-ce que ça peut se faire et comment, etc. Alors maintenant, je commence à me poser des questions et à me dire, mais est-ce que c'est vraiment possible, comment, qui est-ce qu'il ferait, dans quelles conditions, etc. Donc, je pense qu'on a, je sais pas si ce qu'on pense les autres, mais j'ai tendance à vraiment avoir envie de chercher, alors que ça prend du temps, de savoir effectivement ce que la recherche peut être en train de faire réellement. Alors, ce qui m'intéresse plus en ce moment, c'est ce qu'on est en train d'apprendre avec les IRM, avec toutes ces choses-là, sur le fonctionnement du cerveau. Ça m'intéresse énormément, et notamment les croisements entre la neurologie, la psychiatrie, tout ce genre-là, toutes ces choses-là, plutôt que de télécharger. Ou alors, ce que je me disais, c'est que, bon, faut que je le situe très loin dans le futur, parce que dans le futur, on aura résolu tous ces problèmes. Mais apparemment, certaines personnes pensent pas la même chose. Mais comme outil d'invention, on peut très bien utiliser des personnages qui se battent, qui situent une action complètement dans un monde virtuel. On peut tout faire, c'est vachement pratique. À partir du moment où c'est un machin virtuel, c'est l'Afrique. Vous pouvez faire ce que vous voulez, et sauter, bondir, c'est très 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 pratique. Mais bon, la question c'est pourquoi est-ce qu'on fait? Quel genre d'histoire pour toucher les gens, de quelle manière, etc. Ça va être que pour le fun, mais bon, à un moment, on ne fait plus vraiment les choses que pour le fun, peut-être.
Ça pose des problèmes en termes de limites et de risques sur les personnages.
Oui, ça dépend comment on conçoit l'écriture, c'est-à-dire que si on se pose pas de questions, ce qui est le cas pour... Il y a des thèmes, je ne vais pas poser de questions, je vais faire le truc parce que l'idée me plaît, mais ça, le problème c'est que ça arrive de moins en moins. Donc, j'ai de plus en plus tendance à me poser des questions. Ça, c'est autre chose, c'est personnel.
Je vais
te réagir. Ben, moi je me suis toujours posé des questions. Et par ailleurs, je suis toujours fait très attention aux fondations scientifiques de ce que j'ai fait, même si c'était très soft. Et parce que j'ai pas de formation de scientifique, donc c'est vrai que le background scientifique de mes livres n'est pas forcément extrêmement important et évident. Je me suis toujours vraiment beaucoup intéressée à la biologie, donc c'est vrai que tout ce que j'écris à ce niveau-là, j'essaie que ça soit fondé. Donc je sais pas, j'ai pas la même réaction que Sylvie par rapport à ça, c'est-à-dire que j'ai toujours vraiment veillé à ce que ce que j'écrivais, qu'il y ait une crédibilité possible, en tout cas, voilà. À ce niveau-là, je ne suis pas tout à fait sur la même longueur que Sylvie. Donc, je peux ajouter, c'est pour le... De toute façon, le corps a changé, c'est évident. Je crois vraiment que, de toute façon, la surpopulation de la dedans, on ne peut pas continuer, comme on n'est pas parti, que la décroissance n'est pas du tout dans les esprits. Il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Et de toute façon aussi, je pense que le fait de penser que mettre la mémoire sur un support informatique, virtuel, etc., et puis trouver ainsi une forme d'immortalité, c'est complètement illusoire. Parce qu'après tout, on est mort, et puis la copie qu'on peut faire dans notre esprit, ça n'empêche pas que vous soyez mort. Donc, c'est peut-être un double de vous qui naîtra, mais c'est quand même seulement un double de vous, c'est-à-dire ça peut satisfaire votre famille, ceux qui vous aimaient, d'avoir encore quelque chose qui vous ressemble, qui soit avec vous, mais c'est plus vous. Donc, votre mortalité, on la cache, hein, voilà. Ça, j'y crois pas du tout.
Well, I think a lot of science fiction that I read has this sort of stench of wish fulfillment about it. Particularly, there's a certain strain of hard science fiction recently where a lot of it's about mind uploading, about escaping the constraints of the body. And often I'm reading it and I'm thinking at the back of my mind, of the author, you really want this to happen, don't you? You know, you really do want to be uploaded into the computer because then you can get away from the kind of boring existence. existence as a science fiction writer. And I'm against that, and I sort of rebel against that strain when I see it. So a lot of what motivates me as a writer is receiving some trend in science fiction and trying to get away from that. Lately there's been a lot of excitement about the concept of a singularity, the coming singularity, and the notion that computer systems, for instance, are getting more and more complicated and faster, and that at some point down the line we're going to make a computer that has the same, you know, the intellectual capacity of the human mind. All we have to do is wire up enough processors and we'll duplicate human consciousness. And once that happens, the computer will, you know, start making itself even cleverer, and who knows what's going to happen after that moment. But as soon as I started noticing that was a trope that was being used by a lot of science fiction writers in a kind of quasi wish fulfillment sense, and I wanted to rebel against that. So I've become more skeptical in my writing lately. I'm not at all convinced that artificial intelligence in that sense is achievable. I'm not at all convinced that you can upload a human mind into computer space without losing so much that you might as well not bother. There's a general trend towards increasing skepticism in my writing, and I read a lot about neuroscience. That's one of my pet interests, is neuroscience, how the mind functions. And the more I read about it, the more the mind seems to be something that is just innately not susceptible to being digitally reproduced. It's too squishy, it's too chemically. There's no way you're going to just reduce that to a series of algorithms floating around in computer space, in my opinion. So, I've moved well away from any sense that is practical or achievable in our future.
Sylvie, tu veux réagir?
On arrive à la fin de notre conférence. Est-ce qu'il y a des questions? Et peut-être que certains d'entre vous utilisent Second Life et donc déjà un avatar, et déjà peut-être nous raconter comment ça se passe. Monsieur a l'air d'avoir une question.
Oui, pour rebondir sur le Tengigan et Diaspora, de façon qui peut sembler paradoxale, certains personnages de Diaspora sont très attachés à leur corps, même s'ils sont complètement téléchargés dans un ordinateur. Notamment un d'entre eux s'est un peu présenté avec un détail au niveau cellulaire, et comme le disait Esther Benoît au début, on comprend bien que la simulation du cerveau ne suffit pas, mais qu'il faut la simulation du corps en entier. Et donc, on peut, dans ce cas-là, finalement, le corps, même s'il n'existe plus de manière matérielle, existe encore dans la simulation, et reste indispensable pour l'identité du personnage. Donc finalement, si on peut dire que reste au fil du corps, même s'il devient défait, il est encore très important pour une question d'identité, et aussi pour la communication, simplement pour communiquer entre différents avatars. Le corps est un moyen qui reste indispensable. Alors est-ce que ce que Denis connaît bien, c'est une grande spécialiste de Réunion, etc.
Well, there's one thing that I always try to remind myself is there's a lot of anecdotal evidence, like people have heart transplants. And their sort of whole personality changes in weird ways, you know. So the body is not—it's not like a PC where you can take out one module and plug in another, and the motherboard will continue functioning the same way. There's all sorts of weird interactions on a chemical level that are not generally addressed in simplistic terms in science fiction. So I think you can't really separate brain and body that easily. I mean, the brain continues down the spinal cord. The spinal cord sends out nerves into all different parts of the body, and everything's talking to each other, and chemicals are interacting. It's a really difficult problem, I think. The idea that you can sort of just chop the brain off of the neck and recommend everything about you continues, just naive. I mean, that was okay in the 1920s with Donovan's brain, It's not something we should be taking seriously now.
Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, ici.
En fait, on parlait beaucoup de l'importance du corps, mais moi je pensais à un aspect qui on peut parler d'ailleurs au Stopien, qui est un peu plus jeu de rôle, où on a le principe de se créer un avatar dans lequel on va se projeter, et finalement, dans cette logique-là, on va avoir finalement un personnage qui va être créé physiquement, mais dans l'imaginaire. Du coup, on a un corps qui va être imaginé, mais qui ne sera pas présent. Et du coup, le joueur va avoir un rapport particulier avec ce corps, parce qu'il y a une identification possible entre le personnage imaginaire et le joueur qui a créé le personnage. Et donc, c'est intéressant de voir un peu cette relation entre le corps d'un personnage imaginaire et l'esprit d'un joueur réel, finalement.
De mon point de vue, c'est ce qu'on fait quand on écrit. Quand on écrit, on est un peu, enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais on est un peu dans chacun de nos personnages. C'est ça qui fait l'intérêt. En plus, c'est pas cher. On a un crayon et un papier, et vous êtes qui vous voulez, où vous voulez, sans problème. Même pas, c'est juste pour dire pas.
Oui, je suis absolument d'accord avec Denis. Enfin, c'est justement la magie de l'écriture, mais de la notre création. À partir du moment où on connaît des personnages, c'est que, bon, il paraît que ça n'est pas le cas de tous les écrivains, que tous les écrivains n'ont pas d'image dans leur tête, qu'on ne conçoit pas qu'on puisse commencer à écrire sans voir. Mais bon, la plupart, je pense, des écrivains voient, c'est-à-dire voient le monde qu'ils sont en train de construire, voient les personnages qu'ils sont en train de mettre en scène. Donc, ils se font leur film. Voilà. Je pense que pour les rôlistes, ça va fonctionner de la même façon. Ça, c'est la magie de la création, de cette création-là.
On a un monsieur qui a une question juste derrière.
Oui. Donc, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez posé la question d'un point de vue juridique, à qui appartient cet avatar? Est-ce qu'on est sur un réseau, on a toujours le droit de vivre ou de mort sur notre avatar? Est-ce que, par exemple, si demain vous étiez codé, on ne pourrait pas vous avoir avec chaque livre livré par votre éditeur sans vous ayez le droit de dire « oui, je veux lire tout ».
Ça, c'est la question du droit d'auteur. Donc, nous avons été déjà, d'ores et déjà, comme signaux du contrat, être très très prudents avec le droit d'auteur. Et on peut imaginer tout ce qu'on veut, effectivement, à l'avenir. Votre question est très intéressante, mais nous n'en sommes pas là.
Well, yeah, those are the kind of ideas that can animate a story and give you lots of ins and outs to play with. I mean, not entirely related to that, but I had a scenario in one of my books where a character was convicted of a crime, and then under the rules of the society, all existing avatars of that character had to be deleted, if you like, even if they'd been created before the crime had been committed. But I don't know whether that's right or wrong on an ethical level, but it was fun to play with for the purposes of the story. You know, okay, and then what would you call the police who go out deleting these copies? Oh, I know, I call them eraser heads. You know, there's, you know, you just start thinking of all sort of different complications of the story that you haven't had before. So there's a lot of mileage in it, for sure, yeah.
Monsieur?
Ah oui, marche. Il me semble qu'il y a un point que vous n'avez pas abordé, vous avez parlé comme moyen de communiquer, comme moyen d'agir sur l'environnement, mais c'est aussi un moyen de se sortir dans un contexte, dans l'environnement, le fait de savoir qu'on est à l'endroit, la tête en haut, le fait de sentir qu'on est assis sur une chaise, ce genre de choses, et qui, dans un cyberespace, semble-t-il, risque d'être absent dans ce monde-là, qui ont la sens de la vue, lui, qui sont reproduits. On peut imaginer le reproduire les sens, mais est-ce que ça reste exactement la même chose que tous ces sens, les cinq sens et puis le sens de l'équilibre, etc., qui font qu'on se sent vraiment vivant? Est-ce que ça, dans ce cas-là, une cybernétisation de l'esprit ne serait pas rapprochée d'expériences de privation sensorielle, abus scientifique ou autre,
Alors, qui peut répondre?
Bah, tout dépend de la construction du monde virtuel, en fait, de sa densité, des détails de ce monde, et donc de la réincarnation possible dans ce monde. Mais par ailleurs, ça peut être tout à fait intéressant justement de ne pas avoir les mêmes caractéristiques physiques dans le monde qui est créé,
c'est-à-dire d'en avoir bien plus que ce que nous autres demanderaient, sinon ça n'aurait pas un grand intérêt d'avoir un avatar dans un monde virtuel. En fait, c'est l'idée matrice en fait, hein, en disant effectivement. Voilà, je vais laisser répondre à Sylvie. Oui, mais tu disais que ça dépend effectivement du type de monde virtuel, c'est-à-dire que ce qu'on voit, je pense, ce qu'il y a dans Diaspora, par exemple, c'est le cas dans d'autres villes de Greg Egan, c'est-à-dire qu'on a des reconstitutions virtuelles du monde qui sont totalement à l'image du monde, où les personnes enregistrées ressentent, ont des sens, supposés être quasiment les mêmes. Que les nôtres. J'en sais vraiment pas comment on pourra faire ça. En général, il n'y a pas d'explication sur comment ça va être fait. C'est pratique. C'est effectivement la question qu'on peut se poser. Et tout semble démontrer que pour un être humain, il n'y a pas de différence entre, d'une part, le cerveau est un organe exactement comme les autres, l'esprit est le résultat de la fonctionnement de ce machin physique qui existe et de son interaction, de son intégration complète avec le corps. Donc moi j'ai tendance à penser que sans ça, il y aura peut-être des êtres humains, on ne sait rien après tout, si on ne s'est pas fait exploser d'ici 500 millions d'années, peut-être, mais avec les moyens actuels, on va vraiment. Enfin, moi je ne vois absolument pas comment on pourrait s'y prendre, si quelqu'un a une idée de ça.
On va s'arrêter là. Simplement, dans l'assistance, là, vous êtes nombreux à être sur ce long live. Personne. Bon, un quand même. Bon, ça marche. Alors, simplement pour vous dire que tout de suite maintenant, à la librairie, vous allez retrouver Joël Vatrebert, vous allez retrouver Jacques Barbieri en dédicace, Pierre Pébel, Sylvie Denis, Sylvie Miller et Alastair Reynolds, et que ils sont déjà prêts, une conférence sur le polar et la science-fiction. Et dans le même temps, à 15h30, il y aura une rencontre avec Jean-Pierre Andrelon dans l'espace juste à côté de Barbara Spock. Merci à tous.